Histoire, actualité dans la fabrique de l'histoire ce vendredi, actualité des commémorations, actualité des lois ce matin en direct de Strasbourg à l'occasion du 150e anniversaire de la Ligue de l'enseignement. En direct de France Bleu Alsace, que nous remercions de nous accueillir dans ces studios, et en particulier nous remercions Pierre Schott et Frédéric Mouret à l'occasion du congrès qui se tient à Strasbourg et célèbre donc le 150e anniversaire de la Ligue de l'enseignement fondée par Jean Massé. La Ligue de l'enseignement, assez mal connue malgré le très grand nombre de ses adhérents, passés et actuels, la Ligue de l'enseignement qui a défendu dès l'origine la démocratie, le vote, l'éducation populaire, l'enseignement pour tous et la laïcité. Pour en parler ce matin avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire. Jean-Michel Ducomte, il est avec nous, il est président de la Ligue de l'Enseignement, il est auteur aussi d'une biographie de Jean Massé chez Privat. Jean-Michel Jean, il est auteur de L'Utopie citoyenne, une histoire républicaine de la Ligue de l'Enseignement aux éditions de La Découverte, qui vient de paraître. Et Frédéric Savicki, qui est avec nous, il est chercheur en sciences politiques, spécialiste du socialisme et professeur à Paris 1. La Ligue doit marcher en avant du gouvernement pour préparer la voie aux réformes que nous voulons. La raison en est simple, ce n'est pas nous qui sommes les maîtres. Notre maître, il est là-bas, il est en bas, il est en haut, il est partout. C'est le pays tout entier. Or, quand il s'agit de faire des lois, il faut bien nous pénétrer de cette vérité qu'on ne peut mettre dans la loi que ce qui sera accepté par le pays. La première chose à faire est donc de faire entrer les idées nécessaires au fond de l'âme de tout le monde. C'est signé Jean Massé dans son discours de clôture du congrès de la Ligue de l'enseignement en 1886 à Rouen et c'est présent dans le livre de Jean-Michel Jean. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
L'utopie citoyenne, une histoire républicaine de la Ligue de l'enseignement. Bonjour à vous Jean-Michel Ducomte.
Bonjour.
Vous êtes, je l'ai dit, biographe de Jean Massé. On va beaucoup parler de cet homme dans la première partie de cette émission. Et bonjour à vous Frédéric Savicki. Vous êtes donc spécialiste de l'histoire du socialisme, du vote aussi, en tant que professeur de sciences politiques et chercheur en sciences politiques. Alors un texte comme celui-ci résonne particulièrement alors que nous aurons un référendum à Notre-Dame-des-Landes demain, après-demain, que nous avons eu donc le référendum de sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe et que nous avons depuis maintenant plusieurs mois des manifestations dans toute la France à propos de la loi travail.
Tout à fait. Et en même temps, j'ai envie de dire, je pense que Jean Massé, les républicains de cette époque, les républicains progressistes, n'étaient pas très favorables au référendum, qui pour eux, évidemment, renvoyait au plébiscite.
Bien sûr. Et je pense qu'ils les avaient mis à l'écart.
Exactement. Et là, on touche effectivement à une question fondamentale, c'est que dans l'esprit quand même de la démocratie représentative, le choix, le vote, c'est le choix d'abord des représentants, et ces représentants ensuite délibèrent dans des conditions de savoir, de connaissance, d'études du sujet avant de choisir. Et c'est vrai que le référendum ne remplit pas toujours ces conditions-là, même si évidemment il a la force, cette légitimité, j'allais dire presque spontanée, qui est associée à la place centrale du peuple dans nos représentations. Évidemment, la légitimité, si on peut dire, du référendum est quand même directement corrélée, si on peut dire, à l'état de connaissance du sujet. De préparation du débat. Alors on peut dire qu'en Grande-Bretagne, ça fait quelques mois que les arguments s'échangent dans tous les sens. Néanmoins, on voit bien qu'au bout du compte, ce sont les arguments les plus, démagogiques, dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, parce qu'on a activé les peurs aussi bien du côté des partisans du Remain que du côté des partisans du Brexit, qu'il a emporté. Et je ne suis pas sûr, effectivement, que cette conception très passionnelle, finalement, du débat politique ait été celle que promouvait ou promeuvent encore d'ailleurs les membres et les fondateurs de la Ligue de l'enseignement.
Alors tout de même, Jean-Michel Ducomte, vous qui êtes le président de cette Ligue de l'enseignement et aussi biographe de Jean Massé, il ne parle pas évidemment de référendum, il parle des lois en l'occurrence dans ce texte-là. Quand il s'agit de faire des lois, il faut bien nous pénétrer de cette vérité qu'on ne peut mettre dans la loi que ce qui sera accepté par le pays. Donc c'est toute la question qu'on oublie quand on évoque la Ligue de l'enseignement et sa création, de la nécessaire élévation du niveau de connaissance et de savoir d'une société par l'éducation, éducation populaire, par l'enseignement, pour pouvoir justement en faire de chacun de ceux qui composent cette société des citoyens responsables, capables d'accepter ou de voter les lois.
Il parle du peuple, Jean Massé. Il parle du peuple, mais il se méfie de l'appel au peuple. C'est un des paradoxes. Il a longtemps défendu le mandat impératif. C'est-à-dire qu'il était en rupture avec l'utilisation plébiscitaire du suffrage universel.
Bah, Louis-Napoléon Bonaparte.
Napoléon Bonaparte. Mais en même temps, il avait le sentiment que les représentants devaient avoir une vraie légitimité. Et que cette légitimité était d'autant plus fondée que elle reposait sur une éducation du peuple. Il a une formule qui est très proche de celle de Condorcet. Il dit, ce qui me semble important, c'est pas tellement les droits qu'on attribue au peuple, que la conscience que le peuple peut avoir de l'usage qu'il peut en faire ultérieurement. D'où l'éducation destinée à permettre au peuple d'user en raison du droit de vote qui lui est confié. D'où également, avec un niveau d'éducation particulièrement important, la possibilité d'offrir au peuple la capacité de désinvestir ses représentants s'il estime que ces derniers ne remplissent pas leur mission. Cette idée de mandat impératif qui rôde un petit peu aujourd'hui dans le débat public, elle est très présente chez Jean Massé, elle est très présente chez beaucoup de républicains d'avant 1870.
Oui, parce qu'il faut tout de même se souvenir, Jean-Michel Jean, et vous le racontez dans l'Utopie citoyenne, que cette génération qui fonde la Ligue de l'enseignement dans les années 1860, au moment de ce qu'on a appelé, on pourra en discuter, l'empire plus libéral que l'empire autoritaire du début, en tous les cas, dans cette deuxième moitié des années 1860, cette génération est une génération qui a été marquée par la Révolution 1830, par la Révolution 1848, par la naissance d'une sorte de volonté populaire de faire la révolution, et que on a vu cette volonté contredite par un dictateur qui était donc Napoléon III.
Oui, c'est aussi l'idée que la question de la raison et du progrès constitue un ferment, un ciment collectif pour faire en sorte que ces nouvelles générations puissent, j'allais dire, fonctionner autrement dans le pays. Et ça, c'est très important de signaler qu'à l'époque, quand même, 40% des jeunes mariés étaient illettrés, étaient incapables de signer un registre d'état civil, mais en même temps étaient dans un appétit de savoir considérable. Et c'est ça que Jean Massé a compris.
Le début des journaux de grande diffusion, les lectures quotidiennes dans les groupes.
Quand il a lancé sa manifestation pour l'école gratuite obligatoire, l'instruction obligatoire et gratuite, c'était quand même l'idée que tout le monde puisse aller dans des bibliothèques, emprunter des livres, trouver des formations annexes le soir faites par des officiers de l'armée, et que tout le monde s'y mettait. Voilà, c'était ça la grande idée de Jean Massé, c'était de créer du collectif.
Une question de Victor Massé-Lépinet.
Oui, Jean-Michel Ducomte, je voudrais revenir un peu sur cette personnalité de Jean Massé. On va beaucoup parler des rapports de la Ligue avec l'Église, puisque c'est un partenaire didactique, disons, ou dialectique pendant toute l'histoire de la Ligue. Quel était le terreau intellectuel, vous avez évoqué Condorcet, mais aussi spirituel de Jean Massé? Je pose la question parce que j'ai découvert une prière socialiste, par exemple, qui est reproduite dans le livre de Jean-Michel Dian, une prière socialiste pour les enfants de Jean Massé, qui est pour le moins un peu surprenante. « Mon Dieu, protégez la République, qui doit nous sauver ?» Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là, je ne la cite pas exactement. Est-ce que... Enfin, d'où il venait,
surprise.
Jean Massé?
Il n'y a aucune surprise. Je relisais récemment Benoît Malon, qui là-dessus est, me semble-t-il, très clair.
Une des grandes figures du socialisme fin de siècle.
Ah oui, tout à fait. Majeur. Enfin, c'est,
ouais, très
Jaurès
figure.
Existe grâce à Malon, ouais. En grande partie. Malon qui dit, en 1848, le modèle socialiste, c'est le Christ. Dans l'iconographie de 48, dans le discours de 48, c'est qui Massé? C'est deux choses. C'est d'une part le produit d'une éducation catholique, par sa mère et également par le fait que la générosité de la Restauration lui a permis, bien que fils du peuple, d'être scolarisé à Stanislas. C'était là quand même que la bourgeoisie, l'aristocratie catholique formait ses élites. C'est donc ça au départ, Jean Massé. Jean Massé aussi, c'est un parcours étrange, très autodidacte, dans l'univers du socialisme pré-marxiste. Alors, on dit souvent fourriériste, saint-simonien. Il est presque buchésien également à sa façon, Jean Massé. Il représente toute cette tradition du socialisme utopique qui est assez largement marquée par la référence au christianisme.
Mais il représente aussi, en l'occurrence, ce Jean Massé, tout un tas de personnalités qui, devant l'Empire, fuit d'une certaine façon, s'écarte, se met à l'écart. Et si vous tenez votre congrès à Strasbourg, j'imagine que c'est en référence justement au fait que Jean Massé vient trouver ici, dans cette région, de quoi se renourrir, se mettre à l'écart de Paris pour pouvoir réfléchir à ces projets justement utopiques ou ces projets de Ligue de l'enseignement en gestation.
Oui, il a une stratégie de proscrit. C'est pas le seul, hein.
Ferdinand Buisson l'a fait également.
Ferdinand Buisson, enfin, la plupart des républicains de 48, notamment ceux qui étaient impliqués autour de la figure de Ledru Rollin, partent.
Ledru Rollin part à Londres, lui, je crois.
Oui, Ledru Rollin part à Londres. Il part, lui, Ledru Rollin, après la journée de juin 49, où Changarnier essaie de tuer complètement la République. Massé s'en va donc en Alsace parce que tout simplement le bras de l'Empire n'arrive pas jusque dans cette région-là. Alors je suis pas sûr que dans les il y a rien qui le démontre que dans les premières années Jean Massé se retire pour organiser la lutte et la résistance. Je pense que l'idée de lutte et de résistance chez lui comme chez d'autres, elle va naître à partir du moment où l'Empire devient ambigu. Et où un certain nombre des grandes contraintes qui ont été imposées dès 1852 se desserrent, tout simplement parce que l'Empire a besoin de soutien de nature différente. Et à ce moment-là, tous ceux qui étaient un petit peu intelligents considèrent qu'ils peuvent en profiter.
Jean-Michel Jean, puis Frédéric Sabatier.
Une force pour compléter ce que vient de dire Jean-Michel Leconte, ce qu'il faut aussi dire, c'est que Jean Massé n'est pas seulement une conscience politique, c'est un écrivain, un journaliste, quelqu'un qui s'est fait un nom sur des ouvrages qui, à l'époque... peuvent paraître un peu audacieux, qui aujourd'hui paraissent presque ridicules, comme l'histoire d'une bouchée de pain, par exemple.
Alors c'est ça, c'est une façon de faire
pédagogique.
Oui, c'est ça, de l'éducation.
Mais il fait de la pédagogie tout de suite. Il crée le magasin d'éducation et de récréation. Donc, si tu es avec Jules Verne, avec Hetzel, avec un certain nombre de gens, Saint-Beuve, Flammarion, ce personnage est capable d'écrire des ouvrages qui se lisent et qui sont compris par l'ensemble de la population. Et ça
l'histoire du bûcher de pain, il faut le rappeler, on en avait parlé il y a quelque temps dans la Fabrique de l'Histoire, c'est donc une sorte de discussion avec une jeune fille imaginaire, voilà. Où il lui explique comment, effectivement, fonctionne le corps humain.
Mais on est complètement...
À partir de cet exemple, tu vas manger une bouchée de pain, tu crois savoir, mais moi je vais t'expliquer comment cela fonctionne exactement. Donc une volonté pédagogique, effectivement.
Mais c'est ça qui a fait la force, la crédibilité aussi de Jean Massé sur le territoire national.
Frédéric Savicky.
Oui, alors évidemment, il faut éviter quand même de faire une histoire trop héroïque. Hein,
bien sûr.
On va retrouver d'ailleurs ensuite dans la ligne une tension quand même entre, j'allais dire, le local et puis le national. Et puis Massé lance un appel qui prend la forme d'une pétition en faveur de l'enseignement public gratuit, laïque, obligatoire. Et c'est vrai que ça va fédérer des forces qui sont déjà présentes et disséminées sur le territoire. Et il va évidemment incarner ça, un mouvement très ancré, c'est-à-dire que la Ligue, c'est aussi des bibliothèques auto-organisées, communales, ce sont ce que Aiguillon appellerait des cercles qui s'emparent effectivement de cette cause. Donc là, on a quelque chose qui est déjà constitutif de l'histoire de la Ligue, c'est que c'est à la fois un mouvement qui part d'en haut, si on peut dire, et qui est profondément enraciné, et cette tension, on va la retrouver
tout le temps
dans cette organisation.
Victor Massé-Lépinay.
Jean-Michel Dian a évoqué le magasin d'éducation et de récréation que Jean Massé crée donc avec Pierre-Jules Hetzel, qui était un éditeur, et Jules Verne. Ce rapprochement entre ces deux termes, récréation et éducation, c'est le fondement de cette première mouture de la Ligue de l'éducation telle qu'elle a été pensée par Jean Massé quelques années plus tard, puisque ça c'était avant ce magasin d'éducation et de récréation.
Jean-Michel Leconte.
C'est 1863. Disons que l'émergence de Massé sur la scène médiatique, c'est 1863, puisque c'est l'année à la fois de l'histoire d'une bouchée de pain et de la création du magasin d'éducation et de récréation. Alors, quel est l'objectif qu'ils poursuivent ?
Et qu'est-ce que c'est ce magasin ?
Voilà, ce magasin, c'est une publication régulière à destination de l'enfance qui anticipe sur la littérature jeunesse, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, ils sont très largement en avance sur l'édition pour la jeunesse. Et l'idée, c'est de considérer que s'éduquer, c'est pas nécessairement suer sur les bancs d'une école avec une contrainte permanente. C'est aussi créer une interlocution ludique entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné. Et c'est une vision assez neuve de la pédagogie.
Alors, il y a quand même un mot qu'on n'a pas prononcé, plutôt deux mots, c'est franc-maçon ou franc-maçonnerie. Tout de même, Jean Massé est un grand franc-maçon, et tous les responsables d'origine, pourrait-on dire, de la Ligue de l'enseignement, sans dire jusqu'à aujourd'hui, peut-être aussi, puisque je crois qu'il y a eu des réflexions sur cette question pendant votre congrès qui se tient à Strasbourg actuellement, sont liés à la franc-maçonnerie. Quel est ce lien justement entre franc-maçonnerie et Ligue de l'enseignement, démocratie, vote, promotion de l'éducation populaire, etc., etc. Jean-Michel Ducombe.
Alors, ça mériterait beaucoup de temps, mais en quelques mots.
Il faut y aller quand même.
En quelques mots.
On peut pas écarter cette question-là.
Absolument. Non, mais je vais y répondre. Ce qui se passe avec l'émergence de la Ligue rencontre des débats de même nature au sein du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France a été instrumentalisé par l'Empire. Et à partir de 1860, il s'ébroue. Et un certain nombre de maçons qui sont des républicains ou de culture républicaine essaient de trouver des relais dans la société civile qui leur permettent de mettre en œuvre ce qu'ils pensent. Et Jean Massé, d'ailleurs, comme quoi la concordance des dates est importante, devient franc-maçon en 1866. L'année même où il crée la Ligue de l'enseignement. Et immédiatement, les connexions s'établissent parce que un certain nombre de loges maçonniques, avant même la création de la Ligue, avaient créé mouvements en faveur de l'école publique, avaient créé des écoles d'enseignement laïque, enfin des écoles de culture laïque. Et les deux démarches s'épaulent mutuellement. Donc il y a une vraie convergence des initiatives et des convictions.
Et Jean-Michel Dian?
Oui, il faut même aller un peu plus loin. Quand Jean Massé crée sa Ligue, on oublie de dire que c'est en Belgique qu'elle s'est préfigurée, en quelque sorte. Jean Massé a inventé la Ligue de l'enseignement, mais en fait, il s'en est inspiré sur un territoire qui n'est pas celui du territoire national français. Et là-bas aussi, c'était les francs-maçons qui étaient les accompagnateurs, les inspirateurs. Le premier cercle en France, c'est en Moselle, c'est pas loin d'ici. Et c'est là que le premier cercle de la Ligue s'est créé, et c'était les francs-maçons. Dans le livre de Michel Sélig sur le Concordat, il explique très bien comment tout ça s'est mis en scène. Et au fond, la réalité, c'est que sans la franc-maçonnerie, il n'y aurait pas eu de Ligue.
Oui, et donc qu'il y a là des concomitances, puisque beaucoup de ceux qui ont été présidents proches de la Ligue jusqu'à Jean Zay dans les années 30, mais tous ceux qui ont donc dirigé les premiers temps la Ligue, vous évoquiez Ferdinand Buisson et d'autres, tout cela était très lié à la question de la franc-maçonnerie, franc-maçonnerie socialiste, franc-maçonnerie et gauche française.
Socialiste, c'est pas tout de suite. Hein,
oui. Non, mais on n'y est pas encore.
Si le mot, effectivement, à l'époque, est quand même assez plastique et permet on pourrait dire de rassembler des forces très différentes, des gens qui républicains qui disent socialistes, etc. Enfin bon, le lien, on va dire, avec des socialistes la Ligue et puis même la franc-maçonnerie va s'établir très progressivement. Alors il y a déjà des francs-maçons socialistes, y compris en milieu ouvrier, à partir des années 1890, mais la montée en puissance effectivement du lien entre la Ligue et le socialisme, elle va passer beaucoup par l'intermédiaire d'un autre groupe social qui a aussi des liens avec la maçonnerie, mais qui ne s'y superpose pas totalement, c'est le milieu des instituteurs. Et ça va se faire dans une concurrence, dans un premier temps, avec quand même le radicalisme. L'idéologie politique dominante, on va dire, au sein de la Ligue de l'enseignement et de la franc-maçonnerie, au moins jusqu'en 1914, et sans doute au-delà, c'est le radicalisme, et le radicalisme, sur un certain nombre de points, converge avec les socialistes modérés ou les socialistes indépendants, mais pas sur tous, bien évidemment. évidemment.
Alors, il faudrait pas croire, en l'occurrence, que Jean-Michel Ducomte, que Jean Massé n'est que celui qui donne l'impulsion dès le départ. On a entendu un discours de 1883, il y est encore en 1883, il continuera encore à œuvrer, et il va œuvrer dans ce qu'on appelle les grandes lois de la République, comme tous ceux d'ailleurs qui vont être les successeurs de Massé à la tête de cette institution qui est la Ligue de l'Enseignement, les grandes lois de la République, à la fois autour de l'instruction publique, puisque ils ont lancé le mouvement du Sou contre l'ignorance et tout un tas de mouvements de ce type-là qui sont à l'origine de l'instruction publique laïque gratuite et obligatoire, mais aussi sur la loi sur les associations, mais aussi sur les lois sur la laïcité. Jean-Michel Ducomte ?
Oui. Certes, la Ligue de l'Enseignement a accompagné toute une série de réformes républicaines. Alors, un petit mot sur la laïcité. Lorsque la pétition destinée à la création de l'enseignement public est lancée, est-ce qu'il doit être uniquement public et obligatoire, ou est-ce que par ailleurs il convient de le qualifier de laïque ? Il y a un vrai débat dans le cadre duquel Massé est très réticent à l'égard du terme de laïcité, à l'égard même du concept de laïcité. Il propose d'ailleurs, enfin, période de Brexit, cette période permet d'en parler, il dit « un sectarian ». Essayons de créer une école qui ne soit pas sectaire, enfin qui ne soit pas idéologique, une école qui soit neutre. Et il faut du temps pour que la Ligue de l'Enseignement accepte d'entrer dans un débat où la laïcité devient ce qu'elle va ensuite effectivement exprimer, notamment avec les lois Ferry et la loi de 1905.
Victor Massé de Lépinay.
On évoque beaucoup les grands principes de la Ligue de l'Enseignement et les lois qu'ils vont inspirer. Comment ça marche concrètement la Ligue de l'Enseignement dans les premières années ? Jean-Michel Jean a évoqué le premier cercle de la Ligue qui est né à Metz en 1867. Qui devient membre de ce cercle et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est membre d'un cercle de la Ligue de l'Enseignement ?
Jean-Michel Jean.
Ce sont des cadres, pas forcément, ce sont des officiers, ce sont des personnages qui donnent de leur temps bénévolement pour, en dehors de leur travail, aller filer un coup de main, comme on fait pour l'alphabétisation et ainsi de suite. Donc ce sont des cercles très informels. D'ailleurs, Jean-Paul Martin, qui fait un travail magnifique autour de la Ligue en ce moment, qui est un universitaire, insiste sur un mot en disant... Au fond, la Ligue, elle est très informelle à ses débuts. C'est-à-dire que la non-structuration de ce mouvement participe à le rendre hyper efficace, très spontané. Et effectivement, cela permet de ne pas être bureaucratisé d'entrée de jeu. Il a fallu attendre 1881 pour faire en sorte que le premier statut de la Ligue existe. Et ça se passe d'ailleurs dans le rue Cadet, dans les locaux de la franc-maçonnerie.
Mmh. Oui, et donc ce premier congrès, 14 ans après les premiers cercles, c'est un retour d'expérience en fait, on échange. Oui, qu'est-ce qu'il en sort de ce congrès ? Est-ce qu'on se rend compte que cette organisation informelle fait qu'il y a une grande diversité des actions ou des modes d'opération, ou peut-être même des ajustements à faire pour unifier cette ligue ?
Jean-Michel Ducomte.
Oui, enfin, je pense que la fondation juridique de la Ligue de l'Enseignement en 1881 correspond à la nécessité d'une mise à jour du rapport à la République. La République existe, elle a commencé à légiférer, donc on est après 1879, et on se rend compte que si la Ligue veut être efficace, il faut qu'elle ait une visibilité à peu près ordonnée. Jusque-là, c'était la valorisation des initiatives locales avec la Ligue de Lyon n'était pas la Ligue de Lille, n'était pas la Ligue de Bordeaux, n'était pas la Ligue de Strasbourg. Donc il ne s'agit pas de caporaliser la Ligue, mais de créer une structure à peu près homogène qui puisse avoir une interlocution claire avec les autorités républicaines.
Est-ce que ça n'est pas tout de même la particularité de cette Ligue, et qui peut-être lui porte préjudice aujourd'hui, que d'être une sorte de, on appelle ça beaucoup dans le journalisme, et je déteste cette expression, une sorte de galaxie avec des sursauts, avec des surgeons un peu partout, des associations qui sont créées, qui sont affiliées, mais personne ne sait qu'elles sont affiliées à la Ligue au bout du compte. Et quand vous revendiquez presque 2 millions d'adhérents aujourd'hui à la Ligue, beaucoup d'entre eux ne savent peut-être pas qu'ils sont adhérents à la Ligue, parce qu'ils sont adhérents à des associations qui elles-mêmes sont adhérentes à la Ligue. Donc d'une certaine façon, est-ce que ça n'est pas justement cette création, cette origine, qui est encore à l'origine de la moindre connaissance que l'on peut avoir de ce qu'est la Ligue de l'Enseignement, Jean-Michel Ducomte ?
Ça me paraît évident. Et lorsque j'interviens au nom de la Ligue, et que j'évoque le nombre de membres de la Ligue, est-ce que je parle d'utilisateurs des services de la Ligue, de militants de la Ligue de l'Enseignement ? J'ose pas me prononcer parce que je sais pertinemment que ce ne sont pas
les mêmes.
C'est pas des militants. Enfin, c'est pas tous des militants. Il y a des militants au sein de la Ligue. Mais en même temps, je pense que si nous avons survécu un siècle et demi, c'est que le mode de fonctionnement n'était pas aussi dépourvu de pertinence que cela.
Jean-Michel Jean.
Ce qui peut apparaître comme une faiblesse devient en fait une force. Le secrétaire général actuel, Jean-Marc Roiran, un jour me dit, avant que je commence à écrire cet ouvrage, à travailler dessus, sur la Ligue, me dit, en fait, quand on fait le point, c'est le principe de « pour vivre heureux, vivons cachés ». Mais cachés, dans un sens, j'allais dire, honnête, loyal, on est caché, c'est-à-dire qu'on on respecte des entités qui sont juridiquement autonomes, qui vont du sport au cinéma, en passant par les bibliothèques et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun a son sigle. Pour s'y retrouver, c'est un vrai bazar.
Ça, c'est sûr que quand on veut commencer à faire l'histoire de cette organisation, ça doit être assez difficile. Frédéric Sébiki.
Bon, Emmanuel, vous avez vous-même dit que la notion de nébuleuse n'était pas forcément très adéquate.
Judicieuse.
Elle est effectivement nébuleuse. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la Ligue a beaucoup changé dans son organisation entre les années 1970 et puis aujourd'hui. Il y a effectivement cette organisation, j'allais dire, en cascade. La Ligue est une confédération, donc c'est une confédération, ça veut dire un assemblage de fédérations qui elles-mêmes fédèrent des associations, donc c'est assez compliqué. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et effectivement, l'organisation très souple, disons, d'avant 1914, a bien failli faire disparaître la Ligue après la guerre, après la Première Guerre mondiale. Il y a eu un moment très compliqué. D'une certaine façon, la Ligue a pu se relancer à partir du bas et aussi autour d'un nouveau combat commun qui est très lié, on pourrait dire, à la déception de la politique menée par le cartel des gauches et de l'échec du cartel des gauches à réformer la laïcité et à protéger correctement les droits des fonctionnaires et notamment des enseignants. Il y a une déception très très forte qui fait que la mobilisation de tous ces groupes locaux va trouver une nouvelle cause à défendre et va imposer effectivement aux dirigeants parisiens, notamment de la Ligue, qui sont effectivement plutôt des radicaux assez, je dirais, républicains mais modérés, de prendre en compte des revendications, elles, beaucoup plus sociales, voire socialistes. Et c'est à ce moment-là, effectivement, c'est un moment très très important,
un gauchissement,
à la fois un gauchissement et une reconfiguration de l'organisation qui ressemble pas mal à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors après, il y a d'autres transformations qui vont intervenir liées aux activités mêmes, pas simplement aux causes défendues, mais aux activités même que la Ligue va prendre progressivement en charge et qui va amener à une forme de professionnalisation aussi. Hein. Il y a de plus en plus de salariés. Donc ça, c'est encore une autre phase d'évolution sur laquelle on pourra revenir après, si vous voulez.
Jean-Michel Jean.
J'ajoute à cela l'idée que l'ennemi commun, c'est l'Église.
Ah ben ça, j'allais y dire.
C'est l'Église. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, quand il y a eu un 14, mais aussi à la sortie de la guerre, quand il a fallu se battre... C'est essayer de fédérer tous les laïcs. C'est effectivement parce que l'Église était très agressive.
Et puis après la guerre, l'Église, j'allais dire, que l'État.
Ça a été jusqu'en 84. La fin des haricots, c'est 84. C'est quand Mitterrand a finalement abdiqué sur l'école, le grand service public.
1984 et pas
1984. C'est en 1984. Ouais. Donc c'est très, très récent et à la fois, ça a duré quasiment un siècle.
Oui, tout de même, c'est vrai que le combat est double. Il y a un combat contre l'Église, c'est évident, parce que les lois de la laïcité sont portées aussi par les gens de la Ligue de l'enseignement, mais aussi contre l'État, Jean-Michel Ducomte. Et pourquoi ce combat contre l'État ?
C'est un combat contre l'État qui est un combat de nature syndicale, en réalité.
Oui, c'est ça.
La réforme de 25 est passionnante à analyser, à la fois dans ce qui la détermine et dans ses conséquences.
Rappelez-la, cette réforme de...
C'est une réforme qui crée une structure confédérale. Donc, il y a un centre... national qui a une véritable responsabilité politique et qui agrège de façon visible des initiatives locales. Et cette mise en place d'une structure confédérale est liée à la volonté de pouvoir, en quelque sorte, apprivoiser les revendications de syndicats de fonctionnaires qui réclament droits de grève, qui réclament toute une série de droits sociaux particuliers qui n'existent pas à l'époque et à l'encontre desquels s'est jusqu'à présent levé le mouvement radical. La réforme de 1925, c'est aussi la socialisation, au sens idéologique du terme, de la Ligue de l'enseignement. C'est le moment où des marxistes entrent à la Ligue de l'enseignement et où il y a effectivement une vraie tension entre la vieille République radicale et une République qui va vers le Front populaire. Je pense que c'est un grand marqueur historique sur lequel il faudrait retravailler cette réforme de 1925.
Victor Massé d'Épinay.
Oui, je voulais vous demander peut-être à tous les trois, comment ces luttes entre l'Église et la Ligue de l'enseignement et l'État également s'était manifestée dans les colonies, dans le milieu colonial. Parce qu'on sait que l'Église s'est développée, en particulier en Afrique, tout au long du XXe siècle. L'État était là aussi, parfois contre l'Église. La Ligue de l'enseignement, est-ce qu'elle a investi les colonies? Comment est-ce que ça s'est passé?
Il y a une présence dans les colonies de la Ligue de l'enseignement, mais qui n'est pas une présence générale. Et qui est une présence dont on peut considérer qu'elle n'est pas en rupture avec la logique coloniale de la République. C'est que la présence de la Ligue ne dément pas la fonction dévolue aux congrégations religieuses. Et on s'aperçoit que le périmètre d'intervention des fédérations de la Ligue de l'enseignement en Algérie, par exemple, du moins dans les temps premiers du XXe siècle, est une présence qui est limitée au périmètre scolaire. Ce n'est qu'ensuite que le combat anticolonial va rencontrer la présence de la Ligue, mais beaucoup plus tard.
Oui, dans une république qui est quand même très ambiguë par rapport à cette question des congrégations, puisqu'elle autorise les congrégations à s'installer dans des territoires lointains, alors qu'elle les interdit sur le territoire métropolitain, parce qu'elle porte aussi la culture française, etc. Et donc la république autorise ces congrégations à avoir des actions, les Notre-Dame de Sion et d'autres de ce type-là, pendant qu'elle promeut de l'autre côté les missions laïques, etc., etc. Ce qui est tout à fait ambigu. Alors, tout de même, cette question, c'est qu'il faut, peut-être aussi se mettre dans ce contexte des années 20 où arrivent des nouveaux modes de diffusion, en particulier le cinéma, et que le cinéma est déjà un outil pour les catholiques, un outil de
patronage,
de propagande, patronage, etc., de patronage, et que les laïcs se disent il faut aussi se saisir de cet outil-là pour pouvoir en faire quelque chose. C'est là où seront créés tout un tas d'organisations, Jean-Michel Jean, qui sont liées à cette question de la promotion du cinéma, de l'apprentissage du cinéma, qui sont toutes liées à la Ligue de l'enseignement.
À la Ligue, il y a un personnage qui est un ligueur, comme on les appelle, qui est un grand personnage qu'on n'a pas encore cité, qui s'appelle Jean Zé. Jean Zé, membre de la Ligue de l'enseignement, ministre du Front populaire en 1936.
Créateur du Festival de Cannes.
Exactement, on l'oublie encore. Mais il y avait, autour de la nébuleuse dont on parle, des fanatiques de cinéma. Notamment un certain Brunier, qui était président de la Ligue à l'époque, qui était au fond le personnage qui faisait des notes à Jean Zé pour inventer ce qu'on appelle le cinéma éducateur. Et tout le réseau des ciné-clubs, que certains de la génération d'aujourd'hui ont fréquenté, enfin ceux qui ont 60, 50 ou 60 ans aujourd'hui ont fréquenté, on le doit à cette Ligue de l'enseignement.
Le cinéma comptera bientôt un demi-siècle d'existence. Dès son apparition, il a été salué par quelques audacieux comme un moyen puissant d'enseignement et d'éducation, dit Jean Brunier. C'est dans un rapport de 1937. Cependant, à ce jour, l'utilisation qui en est faite à ses fins et dans le monde entier est encore bien insuffisante. Et c'est un rapport sur les techniques nouvelles dans l'enseignement et l'éducation populaire du cinéma.
Grâce aux archives nationales, un certain nombre de documents essentiels sur le cinéma, on s'aperçoit que les fondements du cinéma, c'est la Ligue qui les a.
Oui, Frédéric Sabiquet.
Oui, il y a un aspect effectivement sur lequel on pourra revenir. La Ligue, à travers ses associations, à travers ses unions également de fédérations sectorielles, si on peut dire, a été un lieu très important de rénovation pédagogique et de réflexion et de rénovation des pratiques pédagogiques. Et l'utilisation du cinéma, effectivement, en fait partie. Et c'est aussi très lié, évidemment, à l'expérience qu'ont les associations de faire du parascolaire, on dirait aujourd'hui, ou du périscolaire, ou de la formation pour les adultes, et avec cette préoccupation, effectivement, permanente de comment on fait passer les idées. Et pas simplement dans une optique, on pourrait dire, de lutte contre l'Église sous forme de propagande, mais aussi, effectivement, pour, je dirais, ouvrir, effectivement, l'esprit. Et la deuxième chose que je voulais quand même dire par rapport à ce combat avec l'Église, les années de l'entre-deux-guerres sont vraiment essentielles parce que la Ligue va véritablement gonfler ses effectifs en nombre d'associations et d'adhérents de façon très, très conséquente.
Ça devient une organisation de masse.
Ça devient une organisation de masse et ça fait dire, d'ailleurs, je crois, au Front populaire à Maurice Thorez, qui s'éclament. Ils disent, vous êtes la plus grande fédération culturelle française, etc. Donc il y a une place effectivement considérable. Et ça correspond à la montée aussi très forte des instituteurs à tous les niveaux de l'organisation. Et alors ce qui est important dans cette période-là, c'est que j'évoquais tout à l'heure évidemment les déceptions vis-à-vis de la politique du cartel des gauches, ou plutôt la chute du cartel des gauches, mais c'est aussi le moment où la Fédération nationale catholique se constitue, c'est-à-dire que la confédéralisation de la Ligue est quasiment concomitante de celle de ce qui apparaît comme une menace à beaucoup à l'époque, du renforcement non pas de la présence locale de l'Église, mais aussi de sa capacité à fédérer des structures. Et la Fédération nationale catholique, c'est l'autre, pas peut-être organisation culturelle, mais organisation d'influence qui va également, il y a une thèse qui a été, il y a un livre qui a été consacré, j'ai oublié le nom de l'auteur malheureusement, à cette question, au même moment. Et donc on a effectivement cette lutte qui passe évidemment par le militantisme de terrain, par l'action culturelle, l'action sportive. Ça correspond aussi au développement du sport de masse. Enfin, tout ça, évidemment, s'inscrit dans un même mouvement de transformation profonde qu'évidemment le Front populaire va ponctuer en, à la fois évidemment, reconnaissant les droits à loisirs d'une certaine façon, mais aussi en accordant à la Ligue la possibilité de bénéficier d'instituteurs détachés pour effectuer ses missions.
Et on ne peut pas mettre à l'écart cette question, Jean-Michel Ducomte, qui est que la Ligue a pu servir à certains moments de armée de réserve à la République dans le premier temps, mais au socialisme à partir de ces années-là. C'est-à-dire que il y a des passages réguliers de militantisme de la Ligue au Parti Socialiste, par exemple à la SFIO, et retour qui sont assez intéressants. On note dans le livre de Jean-Michel Jean, L'Utopie citoyenne, une interview que lui a donnée Vincent Payon, qui explique que quand il perd un poste de député, la Ligue lui propose de devenir le président de la Ligue pour la Somme, par exemple. C'est tout de même une liaison qui est presque
organique,
pourrait-on dire, entre les deux.
Bah, je pense que à partir de ce moment-là, la Ligue s'inscrit dans une vision gramscienne des choses. C'est que elle est l'instrument de construction d'un bloc hégémonique, qui est le bloc hégémonique au départ radical, qui ensuite va devenir le bloc hégémonique socialiste. Et les choses vont durer. C'est que l'idée selon laquelle la culture au sens large est de nature à être le facteur principal de transformation sociale, elle s'éclaire au travers de la diversification des activités. Le sport, le cinéma, le théâtre, rien de ce qui est culturel n'échappe à la Ligue de l'enseignement. Et elle considère que l'ensemble de ses interventions doit être efficace et utile sur le terrain politique ou syndical. Ça a aujourd'hui un petit peu disparu. Enfin, je pense que on citait le cas de Vincent Payon, compagnon de route et ami de la Ligue de l'enseignement. Le rapport est quand même moins évident aujourd'hui.
Oui, c'est moins évident.
Moins évident. Il cesse avec la Ve République, en fait, le rapport.
Il y a une tradition très intéressante qu'on a pu observer aussi dans l'histoire de la Ligue, c'est que les présidents de la République, en exercice, étaient présidents d'honneur de la Ligue.
Enfin, ça, c'est jusqu'à la 4e République.
Oui, jusqu'à Poincaré.
Et si Charles de Gaulle y assiste, c'est juste...
Il y assiste parce que c'est 45.
En 45, après la guerre.
C'est la libération, mais après, très vite, quand la loi de Bré est installée, rupture totale, la 5e République, c'est le début de la fin du rapport...
Organique.
Organique. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, c'est terminé, tout ça. Et au fond, Malraux arrive... récupère la culture, l'art, comme symbole du sacré. Et là, on est en face d'une éducation populaire exsangue, idéologiquement, philosophiquement, et ça change la donne.
Victor Massé de l'Épinay.
Je voulais vous interroger justement sur André Malraux et ses conceptions opposées, mais qui à première vue, c'est pas si clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la conception de la culture, c'est de la décentralisation d'André Malraux, est en fait à l'opposé de ce que promeut la Ligue?
Bah, il y a plusieurs questions qui, pour certaines, sont antérieures à Malraux. Il y a les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale et l'émergence de l'animation socioculturelle. Est-ce que l'animation socioculturelle est une activité salariée ou bénévole? Et est-ce que des salariés ont une obligation d'engagement militant? La question n'est pas facile à résoudre. Est-ce que ceux qui sont salariés dans ce type d'activité doivent laisser une place aux militants? Et la Ligue va avoir quelques difficultés, et je ne dis pas qu'elle les a résolues aujourd'hui, mais avoir quelques difficultés à jumeler une professionnalisation extrêmement utile et en même temps une sorte d'abandon des militants à des interrogations difficilement solubles. Et Malraux, là-dessus, ajoute, en quelque sorte, une couche, puisque il nous dit, grosso modo, la culture n'a plus la fonction qu'on voulait ou qu'on lui a reconnue jusqu'à présent. Donc, le champ d'activité même, qui était celui traditionnellement de la Ligue de l'Enseignement, change un petit peu, puisque est-ce qu'on va pas être transformé en petite main? Enfin, est-ce qu'on va pas être ceux qui vont être simplement chargé de réparer les conséquences.
Oui, surtout après les espoirs de la libération de Jean Guéhenno, qui était directeur de l'éducation populaire et qui est quelqu'un qui a effectivement beaucoup compté dans cette après-guerre pour donner des espoirs formidables à l'usage que l'on peut faire de cette éducation populaire pour combler les différences sociales. Frédéric Savicky.
Oui, c'est très intéressant parce que là, on voit poindre effectivement le fait que la Ligue s'inscrit dans un espace, on pourrait dire, de concurrence aussi avec l'administration, les administrations centrales, les administrations locales. Et évidemment, la France, à partir de 45 et surtout sous la Ve République, c'est une France jacobine et étatiste. Hein, c'est-à-dire que même si, plutôt que de décentralisation culturelle, en fait, c'est une déconcentration. Et puis, voilà, Malraux décide d'implanter dans un certain nombre de villes sur des critères, on va dire, a priori définis par l'État, des maisons de la culture. Il y a un certain, évidemment, mépris pour le socioculturel. De l'autre côté, alors c'est un peu plus tardif, la décentralisation, mais qui commence, on pourrait dire, des années 70. Vous avez des municipalités qui vont, pour certaines, s'appuyer sur la Ligue, mais qui mettent en place aussi leurs propres structures de formation et d'encadrement, on va dire.
Des offices municipaux.
Voilà, des offices municipaux. Et puis, ajouter à ça le développement de la scolarité obligatoire. C'est-à-dire que cet espace qui était laissé à la Ligue aussi et là aussi, concurrencer, grignoter. Et donc, effectivement, il faut se positionner par rapport à tout ça, à la fois d'un point de vue, on va dire, politique, idéologique. Hein, on maintient les valeurs d'éducation populaire, d'accès à la culture, par opposition à une vision de culture élitiste. Et il faut aussi sauver la boutique, quoi, parce que on se bat face à un État qui n'est plus forcément le partenaire, effectivement, naturel, enfin, ouais. pour lequel la Ligue n'est plus forcément le partenaire naturel. Et ce qui va avoir comme conséquence, on parlait sur la question du rapprochement avec le PS, quand même de rapprocher fortement malgré tout la Ligue de la gauche, jusqu'à ce que, je crois que c'est en 74, vous introduisez la notion de socialisme même dans les objectifs généraux de la Ligue, dans la déclaration de principe de la Ligue, parce qu'effectivement, le socialisme incarne à ce moment-là une voie de sortie ou de salut de ça, c'est-à-dire d'un rétablissement du socioculturel et de la place de la Ligue comme moteur effectivement de transformation sociale.
Mais quelle déception tout de même. Oui, l'arrivée de Mitterrand, par exemple, ça n'a pas donné les fruits qui étaient escomptés, en tout cas par tous ceux qui étaient auparavant.
Absolument, mais en même temps, il y a eu une forme d'éclatement de la vie associative, une atomisation de la vie associative sous la Ve République. La Ligue n'a plus le monopole du cœur associatif. C'est-à-dire qu'au fond, les auberges de jeunesse, les Francs et Franches Camarades, Léo Lagrange, Peuple et Culture, il y a eu un tas d'associations très militantes qui se sont positionnées comme des interlocuteurs du pouvoir public à ce moment-là. Et la Ligue n'avait plus non plus...
Le contact suffisant.
En tout cas, les relais. La position de force qu'elle pouvait avoir avant la guerre.
Jean-Michel Ducomte, pour conclure. Parce que...
Bah oui, il y a aussi un événement qu'on ne peut pas passer sous silence. Bon, on a évoqué la loi Debré, mais il y a aussi l'échec Savary.
Bah oui, 84.
Dramatique, 84, le retrait du projet du grand service public unifié de l'éducation nationale, qui était une immense revendication de la Ligue de l'Enseignement, du syndicalisme enseignant, des parents d'élèves. Et qu'est-ce qui nous reste après? Enfin, quelle est la nature des combats qu'il faut construire après ce qui a été une défaite historique subie par le camp laïque? Et toute la difficulté, et en même temps, je pense, toute la richesse de ce qui s'est joué après, c'est notre capacité à reconstruire quelque chose, notamment sur le terrain du débat laïque.
Oui, enfin tout de même, avec des difficultés tout de même, parce qu'effectivement, vous n'êtes plus non plus, depuis un certain temps, depuis 5 ou 6 ans, les seuls à vous revendiquer de la laïcité, en particulier le Front National se revendique aussi de la laïcité, et donc ça vous pose sûrement quelques problèmes, Jean-Michel Ducomte.
Non seulement ça me pose un problème, et je pense que les problèmes ne sont jamais une gêne dans le débat politique, mais surtout ça nous permet aussi de réengager un débat public et politique sur le terrain de ce qu'il convient de concevoir comme étant la laïcité.
Merci à vous trois d'être venus nous parler donc à l'occasion de ce 150e anniversaire de la Ligue de l'Enseignement et du congrès qui se tient à Strasbourg ici même de cette Ligue de l'Enseignement. Je rappelle votre livre, Jean-Michel Jean, L'Utopie citoyenne, une histoire républicaine de la Ligue de l'Enseignement, c'est à la découverte. Et le livre que vous avez consacré à Jean Massé, Jean-Michel Ducomte, est chez Privat. Il y a aussi un film que vous avez aussi réalisé autour de cette question-là qui s'appelle La Fabrique du citoyen, Jean-Michel Jean.
Absolument. Et puis le petit livre de Pierre Tournemire qui est un mémo magnifique sur la Ligue de l'Enseignement. renseignements aux éditions Milan.
Merci à tous et nous retrouvons les studios à Paris avec vous, Amélie Meffre. Vous êtes avec nous depuis Paris pour une chronique mensuelle, Un saut dans la loi, dans laquelle vous réfléchissez comme chaque fois à une décision politique et à ses origines historiques. Hier, dans toute la France, il y a eu des manifestations contre la loi El Khomri, la loi travail. Une s'est tenue à Paris après avoir été interdite puis autorisée finalement. Vous avez choisi de nous parler de la loi du 30 juin 1881 qui consacre la liberté de réunion.
Eh bien oui, parce que j'aurais bien voulu vous sortir de mon chapeau une loi qui consacre le droit de manifester, mais elle n'existe pas. Si la Déclaration des droits de l'homme de 1789 proclame que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, eh bien aucun gouvernement ne s'est risqué à inscrire ce droit dans les tablettes. Par contre, beaucoup ont tenté d'encadrer les réunions publiques avant de tolérer les défilés. Ainsi, avec la loi du 10 avril 1831, la réunion la plus pacifiste peut devenir un attroupement qui doit se dissoudre à la première sommation, comme le rappelaient Olivier Filleul et Daniel Tartakovsky. Les personnes arrêtées encourent toutefois des peines légères.
Alors ça se corse tout de même dans ce cours du 19e siècle.
Eh bien oui, parce que la loi du 7 juin 1848 distingue les attroupements armés, interdits, et ceux qui ne le sont pas, interdits aussi, s'ils troublent la tranquillité publique. Une notion suffisamment floue pour contrer les rassemblements. La répression se durcit, les contrevenants passent dorénavant devant les cours d'assises. Et les rébellions sont durement réprimées. Ainsi, en juin 48, des révoltes ouvrières éclatent après la dissolution des ateliers nationaux employant les chômeurs. Bilan, quelques 4000 morts et plus de 4000 prisonniers déportés en Algérie.
Alors la manifestation est alors d'autant plus légitime que le suffrage universel, seulement masculin, est instauré à ce moment-là justement.
Oui, elle devient d'autant plus illégitime parce que pour nombre de parlementaires, la voix du peuple doit s'exprimer dans les urnes et non dans la rue. Alors au fil des ans et avec l'avènement de la Troisième République, les Républicains ont tout de même le souci d'associer le peuple au débat public. Pour contrer la ferveur des foules, explique Paula Cossard, ils promeuvent les réunions publiques. Celles-ci doivent permettre aux citoyens de débattre et de s'exprimer librement et régulièrement en dehors des élections. Ainsi j'en viens à cette loi du 30 juin 1881. Dès mai 1878, plusieurs propositions sur la liberté de réunion sont présentées à la Chambre des députés, qui en discute en janvier 1880. Le Sénat fait de même, et le 30 juin 1881, le président Grévy signe le texte.
Alors, qu'affirme la loi dans son premier article ?
Eh bien, que les réunions publiques sont libres et qu'elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. Elles doivent juste être déclarées 24 heures à l'avance. Par contre, son article 6 interdit toute réunion sur la voie publique. Donc pas question d'encourager les manifestations. Au contraire, on entend dissocier les réunions et les associations. Dans les premières, le débat doit être contradictoire pour mieux fonder la raison et amener au consensus. Ces réunions qui se tiennent dans les salles de bal, chez les marchands de vin, voire dans les catacombes, doivent permettre l'apprentissage de la citoyenneté. La raison est mise en avant pour encadrer les masses et calmer les passions.
Alors, est-ce que ça marche, Amélie ?
Eh ben non, ça marche pas vraiment. Anarchistes, boulangistes et anti-Dreyfusards perturbent les assemblées et les bagarres s'amplifient. Et puis, on continue à manifester. La pratique s'affine même, des entreprises se spécialisent dans le matériel adéquat. Ainsi, nous avons le cotillon du prolétariat qui vend tous les ans dans l'Humanité drapeaux rouges, bannières et fanions, à compter du 1er mai 1907. Si les électriciens en grève sont la même année remplacés par les soldats du génie, Clémenceau, président du Conseil, tolère tout de même certaines manifestations en fonction de leur organisateur et de leur capacité à encadrer les défilés. Bon, il n'ira pas jusqu'à approuver Édouard Vaillant, qui réclame lui un droit de manifestation. Pour le Tigre, la manifestation investit la rue. Or, la rue appartient à tout le monde. Il réaffirme qu'au nom de la liberté des braves gens qui ne sont pas syndicalistes, je cite, les défilés sont interdits.
Alors, par contre, on continue à promouvoir les débats publics, Amélie.
Eh bien oui, parce qu'une loi du 28 mars 1907 supprime l'obligation de déclarer toute réunion publique. Certaines manifestations sont cependant tolérées. C'est le cas le 17 octobre 1909 pour protester contre l'exécution de l'anarchiste Francisco Ferrer. Malgré les violences qui ont émaillé un premier rassemblement trois jours plus tôt, le président du Conseil, Aristide Briand, autorise une nouvelle manifestation à condition qu'il n'y ait ni emblème, ni drapeau, ni cri hostile au gouvernement espagnol comme français. Et pour la première fois, les cortèges furent encadrés en bonne entente par les organisateurs et les forces de l'ordre.
Merci de cette plongée dans le passé des manifestations et des lois qui les encadrent ou pas. On peut lire de Paul Acossard le meeting politique de la délibération à la manifestation 1868-1939, paru aux presses universitaires de Rennes en 2010, et également la manifestation d'Olivier Filliol et de Daniel Tartakovsky, réédité aux presses de Sciences Po en 2014. Merci Amélie, et on se retrouve la saison prochaine. Cette émission a été préparée par Marie-Vanab Olivier, Aurélie Marseille, Yanis Djoudad était à la technique à Paris, et nous remercions nos confrères de Radio France Alsace, de France Bleu Alsace, Pierre Schott et Frédéric Mouret qui ont rendu possible ce direct depuis Strasbourg. La réalisation était assurée par Renaud Dalmar. La semaine prochaine, nous ne sommes pas très loin du sujet dont nous avons parlé aujourd'hui, puisque nous évoquerons 1936, le Front Populaire et ses 80 ans avec Séverine Yatar. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ou toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez les y écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, les télécharger dans l'année qui suit leur diffusion, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse, c'est Fabrique FC.